même qui soit protégé, mais simplement la manière dont on va exprimer ce numéro de cirque dans une certaine forme. On a même protégé, dans certaines décisions, des tours de magie. Il y a quelques décisions qui vont protéger ainsi des spectacles de magie, ou en tout cas certains éléments de ces spectacles de magie. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui va être protégé, comme dans cette décision de la Cour d'appel de Paris de 2003, il y a toute une distinction qui est faite. Donc il s'agissait d'un tour de magie qui datait d'il y a 20-25 ans et qui faisait en sorte qu'un piano s'envolait dans les airs, et donc un joueur de piano, un pianiste, s'asseyait au piano et puis le piano s'enlevait dans les airs. Et cette scène se caractérisait par les mouvements suivants. Donc il était le piano s'élève lentement dans les airs selon une trajectoire en looping apparemment irrégulière. Le pied avant du piano se décolle en premier du sol, l'avant du piano se soulève, puis il balance d'un côté et de l'autre jusqu'à la position verticale, marque un stop dans son mouvement évolutif avant de le poursuivre jusqu'à se retrouver totalement à l'envers, moment où le pianiste, qui a gardé les jambes serrées tout au long de l'illusion, se retrouve dos au sol et que des loopings d'avant en arrière sont effectués. Un seul ou plusieurs, selon le timing du spectacle, à la suite desquels le piano et le musicien atterrissent au retour, le pied avant se posant en premier, que ces éléments caractéristiques sont bien ceux fixés sur le vidéogramme. Donc là aussi, on a enregistré ce tour de prestidigitation, et la question se posait de savoir si quelqu'un d'autre qui avait refait le même tour en imprimant au piano le même mouvement dans son truc de magie était en contrefaçon avec la première œuvre. Et bien là aussi, le juge va faire une distinction entre la prouesse même de magie, le tour de prestidigitation, et le numéro de magie, qui est l'expression de ce tour, de la mise en scène, le tour mis en scène. Et là aussi, on se retrouve quand même dans la décision avec des difficultés. À partir de quand on est dans le tour de magie, le piano qui vole, ou bien à partir de quand on est dans un mouvement qui va exprimer d'une manière différente tel ou tel tour de magie. Il y a sans doute plusieurs manières de faire s'envoler le piano. Donc on est dans des décisions qui peuvent être très, très... Très difficile à apprécier. Autre mise en scène également, c'est lorsque les artistes se mettent en scène eux-mêmes. Et dans l'art contemporain, toute la protection des performances, par exemple, par le droit d'auteur. Là, je ne pense pas qu'on ait de décision de jurisprudence. L'art contemporain fait rarement l'objet de décisions devant les cours et tribunaux. Mais là aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment œuvre lorsqu'un artiste, en fait, ne fait que de se mettre en scène et de faire une performance? Sans doute, la fixation, le fait d'avoir enregistré la performance est-elle une œuvre? Mais la performance elle-même, certains mouvements, certaines postures qui sont prises par l'artiste pour exprimer certains concepts, est-ce vraiment protégeable par le droit d'auteur? Bien souvent, les performances seront surtout des concepts et pas vraiment des expressions, donc on va être en dehors du droit d'auteur. Mais donc, peut-on vraiment admettre que le droit d'auteur passe ainsi à côté d'un pan entier de l'art contemporain, simplement parce que l'art contemporain a choisi une autre voie que le droit d'auteur et a choisi de travailler plus sur l'abstrait, sur le concept?
Autre champ dans lequel on peut s'interroger sur l'opportunité ou l'existence d'une protection, c'est ce qu'on appelle les expressions du folklore. Les mouvements traditionnels, les mouvements sacrés, les prières, les danses traditionnelles. Est-ce qu'il y a ici un terrain pour le droit d'auteur? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on considère que ça ne peut pas être approprié par le droit d'auteur parce que c'est une expression qui est vieille déjà, qui vient des temps antédiluviens et qui est transmise de génération en génération dans une certaine fidélité justement par rapport au folklore. C'est précisément cette tradition, cette fidélité de transmission qui est assurée à travers le folklore, et que donc les gens qui expriment ce folklore à un moment donné n'en sont que les dépositaires et n'en sont pas les créateurs. Donc évidemment, à cette enseigne, il ne peut pas y avoir de droit d'auteur sur le folklore, parce que le folklore dépasse la création individuelle de ceux qui interprètent à un moment donné. Il existe avant, il existera après, il est permanent, il est immanent. En même temps, il y a eu un exemple de jurisprudence intéressante sur la lambada. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, un été, tout le monde s'est mis à danser. Bon. Eh bien, ça, c'était une chanson qui était de l'ordre du folklore brésilien depuis très longtemps et qui est devenue un hit tout d'un coup parce que la réorchestration, la nouvelle rythmique qui était impulsée à ce morceau de musique. Et d'ailleurs, il y a une danse hein, qui va avec la lambada, évidemment. Vous voulez qu'on danse la lambada? Non, pas
bon, je te laisse faire, alors.
Hein. Je peux, hein, si vous voulez. Ce morceau de musique traditionnelle, tout d'un coup, est devenu une œuvre avec une forte attraction économique. Et on peut se poser la question de savoir, dans ce cas-là, s'il n'y a pas un marché, s'il y a un marché qui arrive parce que quelqu'un a su donner tout d'un coup une certaine impulsion à quelque chose qui est folklorique et à lui donner une certaine nouveauté, une certaine attractivité, est-ce qu'il ne pourrait pas profiter de ce marché et en fait essayer d'avoir un droit d'auteur dessus? On voit bien qu'ici, il y a des tensions différentes, une tension entre le marché... le profit et puis la nécessité également de partager, de garder une expression commune et de la garder en dehors du droit d'auteur. Mais d'un autre côté, le problème de rejeter le folklore en dehors du droit d'auteur, c'est qu'on va arriver à cette conséquence particulière que seules les expressions occidentales qui correspondent à la définition que l'on a dans le droit d'auteur ou le copyright vont donner lieu à un marché et à une rémunération, alors que les expressions de type folklorique qui viennent d'Afrique, d'Asie, etc., tout d'un coup, elles seront complètement écartées de toute possibilité de profit et d'exploitation parce qu'elles sont du domaine du folklore. Et donc, il y a ici un discours qui n'est pas seulement un discours de droit d'auteur au regard des principes du droit d'auteur, mais un discours de discrimination selon l'origine culturelle et de possibilité d'exploitation économique selon l'origine culturelle. Je crois que Séverine est d'accord avec moi sur ce point.
Oui. Alors, jusqu'ici, on va conclure là-dessus. Jusqu'ici, on a parlé surtout du mouvement des corps. Mais on pourrait aussi parler du mouvement des objets. Je vous ai déjà parlé du piano qui vole. Mais on peut évidemment partir de certaines œuvres d'art. Les mobiles de Calder, par exemple. Est-ce qu'ils sont protégés par le droit d'auteur en tant qu'objet ou est-ce qu'ils sont protégés en tant qu'objet en mouvement? Est-ce que c'est le mouvement du mobile qui peut faire l'objet d'une appropriation ou seul l'objet? D'autres mouvements d'objets aussi en art pourraient poser question. Les fameux films réalisés par Fischli et Weiss, qui sont sur des successions de mouvements. Je suis désolée, je vous emmène sur YouTube, vous allez avoir affaire aux publicités de YouTube. Donc quand vous avez ces auteurs qui font en fait des œuvres où ils ne font que reprendre des mouvements, je vais essayer de vous mettre l'œuvre en entier. Quand c'est surtout cette succession de mouvements d'objets qui créent l'œuvre, qu'est-ce qu'on va protéger? Est-ce que c'est le film qu'on va protéger, donc la fixation de tous ces mouvements d'objets, ou est-ce que c'est vraiment les mouvements d'objets eux-mêmes qui sont protégés? Et là, avec ces mouvements d'objets, si on admet la protection par le droit d'auteur, donc là, on n'a vraiment aucune jurisprudence, en tout cas, on n'a pas trouvé dans nos fouilles, mais on peut alors arriver, en effet, à reposer la question qu'on avait un peu posée au départ, mais peut-être par l'intervention du droit des brevets, qu'en est-il du mouvement des machines ou des robots? La semaine passée, on a parlé du syndicat des robots. Est-ce que le syndicat des robots va pouvoir demander une protection par le droit d'auteur du mouvement que les robots produisent? Si on admet que les robots ont droit à un syndicat, sans doute leur création ont droit à la protection par le droit d'auteur, n'est-ce pas? Sinon, ce serait vraiment complètement ridicule. Donc, est-ce qu'alors on n'arrive pas, en effet, à ce que cette histoire de protection du mouvement ne soit le prétexte à un glissement tout à fait irrecevable du droit d'auteur ou un mouvement complètement excessif du droit d'auteur? Donc, voilà un petit peu la question sur laquelle... Je souhaiterais clôturer, mais je laisse la parole à Valérie si tu as encore un mot de conclusion.
Non, j'ai rien à ajouter, si ce n'est qu'il faut se méfier de l'émouvant mouvement mouvant. Mais ça, c'est pas très traduisible, je comprends bien. Ne marche plus.
Redis-le.
Alors, je disais, il faut se méfier de l'émouvant, mouvement, mouvant.
Voilà.
Alors, on a un peu le temps pour des questions parce qu'on va garder le rythme pour arriver à 6 heures à Dance. Après Valérie et Séverine, on aura une petite présentation praticable. Puis on laissera la place à Sadie qui va faire un peu un tour. Enfin, elle va nous faire une surprise, un tour de un tissage de ce qui s'est passé ce week-end. Donc, si vous avez des questions, j'imagine pour. Oui, encore des questions, ma belle, et puis elle sera libre. Si vous avez des questions pour Valérie ou Séverine ou des remarques.
Il faut éteindre. Toi ? Séverine ? Séverine, il y a une question.
Hi, I'm going to ask in English. Okay, I'll speak slow and I won't do this. First, I really loved the talk. It was great. Thank you very much. And it occurred to me there's some analogies between what you were saying with movement and sound, because the issue of copyright over music is not that the sound of the music is copyright, but rather the notation or recording. The actual live sound of the music is free of copyright. But in relation to the idea of a gesture restricted by law, I was thinking of this situation when a policeman steps out in the road and raises their hand. Then the cars must stop in response to that gesture, otherwise they break the law. But if an ordinary person like myself steps out in the road and I do this to cause the cars to stop, then I'm breaking the law. So in a sense, you have a gesture which is restricted by law. So I just wonder if you could comment on that in relation to your discussion.
It was not the question. We've been... en français? En français. C'était pour donc c'était pas la question à laquelle on devait répondre, donc on a évité ce genre de. Mais il est évident que les gestes ont aussi peuvent avoir un pouvoir normatif très fort ou un pouvoir justement de violation du droit. Donc c'est évident que le même mouvement peut avoir différents sens. Je crois qu'en tout cas, si on ramène la question au droit d'auteur, un mouvement peut dans certains cas être protégé par le droit d'auteur et dans un autre cas ne pas être protégé par le droit d'auteur. Donc tout va dépendre aussi, je crois, de l'intention qu'il y a derrière le mouvement. Et c'est ce qui nous semble problématique, en tout cas, parce qu'en priori, c'est vrai que l'idée de l'intention créatrice en droit d'auteur peut avoir un certain rôle, mais ne doit pas être suffisante en soi. Donc voilà, mais c'est vrai que la question que tu poses, heureusement, n'a pas dû être traitée, enfin, c'était pas en tout cas le mandat qu'on nous avait donné, mais ça, évidemment, je réponds pas vraiment à la question en faisant ça, c'est un peu facile de ma part, je l'admets.
Malgré les quelques secondes de réflexion que je viens d'avoir, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que, bien évidemment, il peut y avoir des mouvements prohibés et des mouvements autorisés, et ça, effectivement, qui dépasse complètement le cadre du droit d'auteur. On peut imaginer que certaines manipulations ne peuvent être faites que par certains individus parce qu'ils sont autorisés à travers des mécanismes de sécurité, des processus de sécurité, de qualité, qui vont obliger les gens à exécuter tel type de mouvement et exclure certaines autres personnes de ce mouvement. Mais c'est vrai que ça n'était pas l'idée de notre speech, c'était plutôt d'essayer de voir comment, quand un mouvement donne... a une dimension esthétique, il peut éventuellement donner lieu à un pouvoir de propriété, à une relation de propriétaire par rapport à un autre, à autrui. Et est-ce que c'est souhaitable de le faire pour des raisons esthétiques? Enfin, le présupposé droit d'auteur étant quand même la réservation d'une œuvre pour un marché. Est-ce que cette notion de marché justifie qu'éventuellement on interdise également l'accès à ces mouvements-là. Le mouvement que vous évoquiez d'interdire, il a une fonction, il a une fonction de régulation des comportements de police. Et donc, on peut imaginer qu'il est, il est socialement tolérable de le réserver à certains individus. Parce que si tout le monde se met à faire ça dans la rue et à empêcher les gens de circuler, ça va devenir compliqué dans notre société. Mais on peut se poser la question de savoir jusqu'où est-ce que ce qui porte le droit d'auteur, ce que porte le droit d'auteur, c'est-à-dire ce que défend le droit d'auteur, cette possibilité d'avoir un marché autour de l'œuvre, justifie la propriété d'un mouvement ou de plusieurs mouvements. C'était un peu ça, peut-être, les questions polémiques qu'on voulait soulever.
Oula.
I just want to elaborate on the question that was asked. Because, yeah, I mean, it sounds kind of strange that we're speaking about protection of movements and we're sort of confining it to the more or less safe confines of art and culture. But, I mean, could this type of discussions set some precedent for example, the protection of movements by, I don't know, totalitarian regimes and stuff? Well, that's one question, and the other was you mentioned that something about non-Western movements not being like interesting for the debate. So I was wondering why.
Alors, sur la première partie de la question, je suis pas sûre que j'ai tout compris. J'ai pas tout entendu. Sur la deuxième partie, qui est le problème des expressions folkloriques. Je dis simplement, et je pense que Séverine pourra continuer ce discours-là, qu'il y a un discours politique consistant à dire le folklore n'est pas protégé par le droit d'auteur. Et pourquoi ? Parce que c'est une expression folklorique et c'est une expression traditionnelle et qu'il est important que toute la collectivité ait accès à ces mouvements parce que c'est l'histoire, parce que c'est quelque chose qui appartient à un patrimoine commun. Donc, fin de l'histoire, on ne peut pas avoir de réservation, de marché d'exploitation qui profite à certains parce que ceci doit participer à tous. Très bien. Mais alors pourquoi est-ce qu'on admet la protection des chorégraphies ? Pourquoi est-ce que l'idée d'un patrimoine commun n'est pas la même quand on se place sur le terrain du droit d'auteur en France, en Europe ? Et là, on voit bien qu'il y a derrière un critère technique, un discours politique qui va conduire à une réalité économique extrêmement différente. Voilà, c'était...
Mais c'est surtout aussi que par rapport aux expressions du folklore, la question surtout qui se pose, c'est que le droit d'auteur, évidemment, il est à peu près maintenant identique un peu partout dans le monde, mais c'est quand même une idée très occidentale. Et donc, qui vient d'idées très occidentales de ce que c'est qu'un auteur, de ce que c'est qu'une création, et qui ne sont pas des idées qui sont les mêmes dans certaines autres populations. Et donc, forcément, pour des raisons économiques, on a essayé d'étendre le droit d'auteur partout dans le monde, mais ce qu'on a étendu, ce n'est pas une idée pure du droit d'auteur, c'est une idée très occidentale du droit d'auteur. Et donc, il vient un petit peu se confronter à d'autres types de créations. Et le problème des créations du folklore, enfin le problème, ce n'est pas un problème, mais par rapport à notre idée occidentale du droit d'auteur, c'est que l'auteur n'est pas unique, que ce sont l'auteur en droit d'auteur, c'est une personne unique qui marque de l'œuvre, de l'empreinte de sa personnalité. Or, le folklore, c'est une succession de personnes qui ont fait justement une création collective, collaborative, et ça, le droit d'auteur est très revêche à ce genre de création. Et c'est aussi une œuvre qui, en effet, existe depuis des millénaires, donc forcément qui est déjà dans le domaine public, quelque part, qui est tombée dans le domaine public. Et donc, la question de la protection du folklore par le droit d'auteur, elle se heurte à ces difficultés méthodologique là, parce qu'elle arrive dans un système qui est conçu sur une certaine forme de culture qu'on a cru pendant des centaines d'années être la seule forme de culture possible. Donc pour le moment, en tout cas au niveau international, on réfléchit pour essayer de créer à côté du droit d'auteur une autre protection qui pourrait englober d'autres types de créations et notamment le folklore. Parce que justement, et là je reviens à la protection des mouvements ou des gestes, il n'y a pas forcément une volonté toujours de certaines populations de protéger leur folklore pour l'exploiter commercialement, mais aussi de le protéger de manière défensive, où certains gestes ont des significations sacrées pour certaines populations. Et donc de pouvoir, par un droit, empêcher certaines personnes de les exploiter commercialement parce que ça pourrait offenser les dieux ou leur divinité ou des choses comme ça. Il y a eu des cas, je crois, en Australie, où certains avaient repris des danses aborigènes pour en faire des tubes commerciaux. Et c'était vraiment considéré comme par certaines populations. Ces danses étaient sacrées. Et donc, en faisant ça, l'exploitation commerciale avait vraiment porté atteinte à la spiritualité de ces groupes. Et donc on essaye maintenant au niveau international de tenir compte de ces intérêts un peu différents du droit d'auteur et de les protéger également. Voilà. Mais votre première question, je n'ai pas non plus entendu toute la question, donc je ne l'ai pas compris.
Je te passe après. En fait, le début de la question d'Ivan, c'était que vous aviez pris le droit d'auteur comme pouvant être un empêchant du mouvement, mais qu'il existe aussi des régimes totalitaires qui empêchent le mouvement.
Au tout début, j'ai dit qu'on ne voulait pas en tout cas se prononcer sur l'opportunité même du régime du droit d'auteur. C'est vrai que l'idée générale du droit d'auteur, c'est que c'est un droit qui interdit de faire ce qu'on a déjà fait ou ce qui est protégé. Je pense que toutes les deux, on ne pense pas que c'est un droit d'interdiction. C'est plutôt un espèce de contrôle qu'on donne, ou en tout cas de lien qu'on crée entre l'auteur et sa création, qui peut lui permettre d'interdire, c'est évident, mais qui peut aussi lui permettre d'autoriser, de diffuser, de partager. C'est tout le mouvement du libre. Donc en soi, je crois que le droit d'auteur n'est pas forcément problématique. C'est la manière dont il est fait. Voilà, alors l'analogie avec des régimes totalitaires qui empêcheraient les mouvements... En tout cas, c'est une analogie qui est peut-être très loin du droit d'auteur. Mais en tout cas, nous, on n'est pas dans une optique de droit d'auteur qui interdit, mais aussi peut-être un droit d'auteur qui veut d'abord reconnaître ce qui est sien, ce qui a été créé par telle ou telle personne. Je pense que souvent, dans les conflits de droit d'auteur, il y a cette optique de dire « attention, ça c'est moi qui l'ai fait », et de reconnaître en tout cas cette attribution de l'œuvre et pas... forcément d'interdire, même si c'est vrai que de temps en temps, c'est simplement des cas dans lesquels on veut interdire et recevoir de l'argent. Enfin, il faut être prosaïque, c'est souvent le cas aussi.
Moi, j'avais une question, mais en fait, c'était dans la veine. C'est aussi sur ces questions de folklore, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce que je vous dites. Et en fait, la réponse là ne m'éclaire pas beaucoup plus.
Qu'est-ce que
j'arrive à formuler. Déjà, je ne comprends pas ce que c'est que le folklore, déjà. Qu'est-ce que ça regroupe et à partir de là, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est non occidental, ça ne peut pas être protégé, ça ne doit pas l'être, ou ça doit l'être, ou pas l'être. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que c'est dans le discours que vous portez là, le folklore? Est-ce que c'est des chansons du Moyen-Âge? C'est quoi
ça... Ça peut être la bourrée en Haute-Garonne, comme ça peut être des danses tribales du Zimbabwe. Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'en fait, ce mécanisme de création n'obéit pas au schéma du mécanisme de création sur lequel repose le droit d'auteur, où c'est un auteur unique qui a intenté créer quelque chose de fini. Alors que dans le folklore, il y a l'idée d'un passage de témoin, de quelque chose qui existait avant soi, dont on est dépositaire et qu'on va retransmettre, et qui s'hérite de génération en génération, qui peut s'agrémenter, qui peut se modifier, bien évidemment, mais qui peut aussi être fondé sur l'idée, au contraire, d'une grande rigidité dans la transmission. Hein. Si c'est des gestes sacrés, on va éviter que des gens prennent des libertés avec ça. Donc le mode de transmission, il est inhérent à l'idée du folklore. Partant de là, les schémas sur lesquels repose le droit d'auteur peuvent pas permettre de protéger le folklore par le système du droit d'auteur. Alors on peut se dire, tant mieux, parce que finalement, ça permet à tout le monde de pouvoir continuer à utiliser cette création-là, à partager cet élément-là et qu'il soit du domaine commun. Mais comme le disait Séverine à l'instant, il y a aussi des dangers à dire que ceci n'est pas du tout protégé, c'est que ça n'empêche pas certains intérêts un peu cyniques, d'utiliser librement ce patrimoine et de l'acculturer, de le reprendre à sa sauce pour en faire éventuellement quelque chose qui est totalement en violation de ce qui est porté par ce patrimoine et qu'il y a là rien qui va protéger, rien qui va pouvoir permettre à cette expression-là de dire non, non, là vous êtes en train de fausser ce qui est sacré, non, vous êtes en train d'acculturer quelque chose qui est propre à nous. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que le droit d'auteur ne va pas donner cette protection-là et pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen connu de faire respecter cette identité, finalement, cette identité culturelle à travers un système de réservation.
Et c'est pas forcément non plus, parfois certaines populations n'ont pas vraiment, enfin c'est pas uniquement quelque chose d'interdire, de porter atteinte à une culture qui devrait être figée parce que sacrée ou quoi que ce soit, mais parfois c'est aussi, bon il y a des cas passés où certains groupes ont trouvé des chansons traditionnelles dans telle population et en ont fait vraiment, comment s'appelait ce groupe dans les années 80, qui a gagné des millions de dollars sur une chanson qui était en fait un hymne traditionnel dans une population, des chants traditionnels. Non, pas la lambada, c'était et qui l'a transformé en espèce de chanson rock qui a vraiment fait le tour du monde, qui a gagné des millions. Et la population indigène s'est dit, mais attendez, c'est nous qui avons créé ces chants au fur et à mesure des décennies, des générations, etc. Et nous, on n'a aucune rétribution financière de ça, de notre création. Donc il y a aussi parfois aussi simplement des populations qui veulent avoir une part dans l'exploitation commerciale qui est faite de leurs œuvres. Et donc c'est tout un mouvement pour le moment qui s'est créé en propriété intellectuelle et qui a été porté par ces populations qui commencent à créer des lobbies au niveau international pour voir reconnaître des droits spécifiques sur leur culture. Mais ça va plus loin que le folklore. On parle du folklore, mais on parle aussi de tous les savoirs traditionnels, puisque là aussi, on a par contre alors des interférences avec le brevet où il y a des entreprises pharmaceutiques occidentales qui viennent dans des populations qui regardent un petit peu quelles plantes elles utilisent pour soigner quoi et qui pillent un peu tout ça et vont créer des médicaments sur lesquels ils